France Inter. .fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, le narguilé de plus en plus plébiscité par les jeunes.
Soirée canapé, mais jamais sans mon narguilé. D'autres fument la cigarette, eux ne jurent que par la chicha. Et la chicha deviendrait-elle plus tendance que la cigarette ?
Et cette étude menée par des chercheurs de l'université de Buffalo aux États-Unis qui vient de montrer que cette pratique était en hausse chez les jeunes adultes américains. Des résultats qui confortent ceux d'une autre étude montrant que le narguilé constitue le premier produit testé pour un quart des jeunes. Et on en parle, Catherine Decopé, avec notre invitée.
Oui, en ligne pour en parler avec nous tout de suite, Geneviève Lafaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc psychiatre addictologue, responsable de l'unité adolescents et jeunes adultes du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Paris. Selon cette étude donc de l'université de Buffalo, le comportement des lycéens, en tout cas dans le New Jersey, c'était l'objet d'étude. Selon cette étude, plus d'un jeune sur cinq déclare avoir déjà fumé le narguilé en 2014. C'est presque 5 points de plus qu'en 2008. Est-ce qu'une telle augmentation concerne la France ? C'est une tendance qu'on observe également dans votre consultation ?
Alors c'est vrai qu'au niveau des jeunes consommateurs, c'est vrai qu'on constate une grosse augmentation quand même du narguilé. Alors il y a l'OFDT qui est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui permet d'avoir une vue un petit peu sur les consommations des jeunes, notamment au travers de l'étude Escapade, qui a plutôt constaté une diminution en 2017 par rapport à 2014. En 2014, on était pour la chicha en gros 65%, et là maintenant on est à 50% des jeunes qui ont expérimenté la chicha, des jeunes de 17 ans. Donc ça reste quand même la moitié des jeunes, on n'est même pas sur 1 sur 5, on est sur la moitié des jeunes qui ont déjà essayé la chicha. Il y a un point qui est intéressant dans les données de l'OFDT, c'est qu'il montre que souvent la chicha, les consommateurs sont des consommateurs aussi de tabac, mais il y a une proportion de ces jeunes qui sont consommateurs exclusivement de chicha. Et pour cette proportion-là, le chiffre n'a quasiment pas bougé entre 2017 et 2014. C'est-à-dire que quand on parle de prévention, autant la prévention semble toucher pour le tabac l'ensemble des consommateurs, que ce soit du tabac classique ou de la chicha, entre 2017 et 2014. Pour les consommateurs que de chicha, ça ne semble pas être le cas.
Quand vous recevez les jeunes en addictologie, est-ce que vous recevez justement maintenant des jeunes qui ont ces problèmes d'addiction avec le narguilé, ou c'est très rare, puisque ça reste une pratique relativement marginale par rapport à la cigarette ?
C'est pas une pratique qui est si marginale que ça, c'est une pratique qui est fréquente dans le cadre de nos consommateurs. Maintenant, ce n'est pas la demande de soins. La demande de soins va être pour d'autres produits, par exemple le cannabis notamment, l'alcool, mais en tout cas, même s'il y a une consommation de narguilé, ça ne va pas être la question de la consultation.
Mais est-ce qu'on peut être addict à cela ou pas du tout ? C'est un produit justement qui ne rend pas dépendant ?
On a les mêmes produits, si vous voulez, ça reste du tabac.
Alors peut-être
avec un mode de consommation qui est différent. Après, on a les produits dans le tabac qui sont aussi addictogènes que dans la cigarette. Avec en plus le phénomène, par la combustion qu'il va y avoir dans le narguilé, on va, comme la fumée est refroidie au moment où on va l'inhaler, on a tendance à absorber des bouffées plus importantes, et donc avec des toxiques plus importants aussi. Donc potentiellement, si on part de ce principe-là, on peut dire que ça rend plus addict. Après, il y a le phénomène qui est qu'on peut se balader avec un paquet de cigarettes dans la poche, on ne va pas se balader avec la chicha. Donc la
c'est
consommation
plus compliqué.
Va être plus ponctuelle au niveau de la chicha.
C'est sûr.
Geneviève Lafaille, on peut peut-être revenir justement sur le principe même du narguilé en précisant exactement quelles sont les différentes étapes par rapport à la cigarette, puisque vous dites qu'il y a le charbon de bois qui se rajoute, et donc ça, c'est une toxicité supplémentaire ?
Ce qui va faire surtout la toxicité, c'est qu'on va inhaler des bouffées beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que quand on va tirer sur une cigarette, il y a un moment ça va chauffer, donc on va s'arrêter. Ce qui ne va pas être le cas avec la fumée du narguilé qui va être refroidie, parce qu'en fait la fumée va passer dans de l'eau froide, dans un vase, et ensuite va être inhalée. Donc le fait que ce soit refroidi, on a tendance à absorber de plus grandes quantités.
Alors quel est le discours qu'ont les jeunes aujourd'hui sur le narguilé ? C'est une pratique qui est souvent moins perçue toxique par rapport à la cigarette, justement ?
Ah oui, pour eux c'est principalement le côté festif. C'est vrai qu'il y a un point qui est souvent rassurant pour les jeunes, c'est quand ils sont ensemble, et dès qu'on ne consomme pas tout seul, c'est moins dangereux. Donc clairement, ça reste quand même une pratique de groupe. Il y a en plus un aspect qui est assez ludique, c'est du tabac avec des parfums différents, que ce soit la pomme, le caramel, etc. Donc vous mettez l'odeur qui est assez agréable, l'aspect convivial, tout ça fait que c'est moins dangereux. Et puis en plus, par rapport au tabac, on parle beaucoup de la combustion, de la dangerosité associée à ça. Et c'est vrai que quand les jeunes vont fumer une chicha, le fait que la fumée soit froide, pour eux, c'est quelque chose qui est très rassurant. Et en plus, ils s'imaginent que l'eau va filtrer. l'eau n'a rien d'infiltre, si vous voulez, et laisse quand même passer toutes les substances toxiques. Donc en soi, ça n'a vraiment rien de toxique, sauf dans la représentation des jeunes.
Il y a aussi peut-être certains jeunes qui font certains mélanges, hein, qui mettent de l'alcool dans l'eau ou qui mélangent avec du cannabis. Ça, c'est des pratiques que vous observez ?
Oui, bah moi c'est vrai que je suis une consultation qui voit quand même beaucoup de consommateurs de cannabis, donc clairement j'en ai quand même un certain nombre qui mettent du cannabis aussi là-dedans.
Alors selon la seconde étude menée par ces chercheurs américains, plus d'un quart des jeunes observés déclarent que le narguilé est le premier produit à base de nicotine qu'ils essayent. Est-ce que justement c'est là le danger du narguilé aussi, c'est d'être un premier pas vers d'autres consommations, notamment de cigarettes ?
Bah le fait en plus qu'il y ait... Clairement, ça peut être un élément qui va nous préoccuper au niveau des jeunes. On sait que plus on consomme tôt et plus on va être à risque de derrière développer une addiction. Par cet aspect ludique, si vous voulez, convivial qu'il peut y avoir avec la chicha, c'est pas cher, on va s'y mettre à plusieurs. Donc on peut rentrer beaucoup plus vite dans une consommation, qui au départ va être ponctuelle effectivement, mais généralement une addiction commence toujours par une consommation ponctuelle. Donc c'est vrai qu'avec la nicotine, parce qu'il y a de la nicotine qui rend addict ce mode de consommation, on peut rentrer plus vite, plus tôt, dans un mode de consommation qui va pouvoir devenir de plus en plus régulier. Et après, pour avoir, si vous voulez, les mêmes effets, on va pouvoir passer à la cigarette plus facilement. Alors après, par rapport aux autres addictions, les résultats des études, c'est plus mitigé, hein, mais clairement, comme porte d'entrée dans le tabac, la chicha semble être vraiment un point d'accroche.
Geneviève Lafaille, le début de notre discussion, c'est cette étude de l'université de Buffalo, donc aux États-Unis. Est-ce qu'en France, on s'intéresse à cette question ? Est-ce qu'il y a des études qui sont menées ou pas ?
C'est surtout des études épidémiologiques, c'est-à-dire pour voir un petit peu le niveau de consommation et quels sont les consommateurs. C'est vrai que pour l'instant, c'était des pratiques qui étaient considérées comme marginales. On voit quand même dans les chiffres de l'OFDT que c'est plus si marginal que ça, qu'il y a quand même une dangerosité. Hein, on est sur la même dangerosité, voire une dangerosité plus importante qu'avec le tabac. Après, pour pouvoir mener des études, il faudrait pouvoir mieux cibler aussi les populations pour mieux les étudier. Et c'est vrai qu'on voit chez les jeunes, moi je m'occupe exclusivement de jeunes consommateurs, la population de jeunes consommateurs change, pas que au niveau du narguilé, mais au niveau de toutes leurs pratiques, ça change assez rapidement. Donc c'est une des difficultés.
Vous pensez, Geneviève Lafaille, que le narguilé est sous-estimé du coup dans les démarches de prévention aujourd'hui auprès des jeunes ?
Soupir.
Soupir.
On l'a bien entendu.
Il y a beaucoup de choses qu'ils ont sous-estimées actuellement dans la prévention auprès des jeunes.
C'est un ensemble, c'est ça.
On a des pour le narguilé comme pour le reste. Donc on est sur quelque chose d'assez précautionneux, alors qu'on a quand même des jeunes qui consomment de tout, tôt, beaucoup. Donc le narguilé en faisant partie, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées.
Oui. Marilène Patou-Matisse, est-ce qu'il fumait jeune le néandertalien
Non, mais alors ça c'est la question piège. Hein. Là, je ne sais pas, il n'y a aucun vestige qui le montre, mais il n'y avait pas de tabac, ça c'est sûr.
Il prenait des trucs.
On ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait des plantes, peut-être des champignons.
Ah oui, quand même. Non. Bon, on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer.
Merci beaucoup, en tout cas, Geneviève Lafaille. Merci Catherine de Coppet. On se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, une très très grande mâchoire du Jurassique retrouvée sur une plage anglaise. Un groupe international de paléontologues de l'université de Manchester a découvert un os géant Dictyosaurus, une espèce de reptile marin préhistorique, vieux de plus de 205 millions d'années. Cet os de mâchoire trouvé sur la plage de Lidstock en Grande-Bretagne permet d'estimer la taille de l'animal à au moins 26 mètres de long, soit un mètre de plus que la baleine bleue. L'animal auquel appartenait la mâchoire serait donc 25% plus grand que le plus grand Dictyosaurus déjà connu, un résultat obtenu en comparant cette trouvaille avec d'autres ossements et squelettes de la même espèce. De la vie microbienne dans les nuages de Vénus, une étude publiée dans le journal Astrobiology donne une possible explication à la présence de taches sombres observées sur les images de cette planète. Si Vénus est particulièrement inhospitalière en raison de la présence de volcans, de plaines de lave et de températures supérieures à 450 degrés, les conditions environnementales de ces nuages pourraient en revanche être favorables à une vie microbienne. Selon l'équipe internationale du planétologue Sanjay Limay, les particules observées semblent avoir la même composition que les bactéries terriennes. Ne reste plus évidemment qu'à prouver cette hypothèse. Et puis mal dormir augmenterait les risques de développer la maladie d'Alzheimer en cause de l'augmentation des niveaux d'une protéine repérée chez les patients atteints de la maladie. Les chercheurs du National Institute of Health des États-Unis ont observé le cerveau de 20 volontaires pendant deux nuits, l'une reposante et l'autre limitée à 5 heures de sommeil. Lors de l'analyse du cerveau sur la nuit écourtée, les chercheurs ont constaté une augmentation de cette protéine, la bêta-amyloïde, dans deux régions stratégiques, notamment pour la mémoire, l'hippocampe et le thalamus. À l'heure actuelle, il est encore très difficile de savoir quand même si le manque de sommeil est un symptôme de la maladie ou s'il y contribue.